I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Cette semaine, une tristesse infinie avec la disparition d'un monstre du cinéma français, Jean-Pierre Bacri. Mais j'ai la chance de présenter cette émission depuis 5 ans avec notre petit Jean-Pierre Bacri à nous, avec 20 ans de moins, 10 ans de moins ou 5. Peu importe finalement. Un râleur attendrissant qui profite de tout, mais alors vraiment de tout pour s'emporter. Mais ça m'énerve ça, Neymar qui fait que tomber et pleurer alors qu'on n'a pas touché. Non mais c'est quoi leur problème au gros club, cette Super League pourrie là? Ils se foutent de nous quoi? Non mais c'est une blague cette Ligue 1 en mousse là? Non mais tu rigoles ou quoi? L'Allemagne en 90, ça c'était une vraie équipe. Ça te dit quelque chose, Andreas Bremer, Rudi Föller? Alors arrête de me les briser avec tes Di Maria, tes Thauvin ou tes Fekir là. Guardiola, mais les mecs en ont que pour lui. C'est quoi cette mode là? Ça me saoule. Moi je veux du sale, donnez-moi du Simeone. Attends, mais c'est quand même dingue, bordel. Au JPP, c'est le seul mec à avoir remporté le ballon d'or en jouant en Division 1. Mais ça, bien sûr, tout le monde l'a oublié. Hein, JPP, il a 3 Cristiano dans chaque cuisse. Non, mais Varane, meilleur que Laurent Blanc, ça va pas. Ça m'énerve cette génération avec la mémoire de poisson rouge. Putain, mais réveillez-vous. Et qu'est-ce qu'il me veut lui sur Twitter? Il me cherche ou quoi? Le pire, c'est que je peux même pas m'empêcher de répondre. Je m'énerve tout seul là. Alors oui, nous sommes tristes, je suis triste, parce que Jean-Pierre Bacri s'en est allé beaucoup trop tôt et qu'il va beaucoup nous manquer, mais il nous reste notre petite merveille à nous. Alors n'arrête surtout jamais de râler. Comment ça va, Maxime?
Ça va, là j'ai pas envie de râler, sinon de rajouter quelque chose. C'est quoi cet accent?
Ouais, j'ai essayé d'imiter Jean-Pierre Bacri, mais je dis pas.
Ah oui, d'accord, ah oui.
Ça m'énerve ça, tu vois.
Ah oui, d'accord, ouais, là c'est beaucoup mieux là.
Ouais, c'était pas évident, non, c'était pas évident.
J'aimerais, en fait, est-ce qu'on a 2 heures d'émission? Je voudrais repasser tous les arguments les uns après les autres.
Est-ce que tout ce que j'ai dit, tu me l'as jamais dit? Tu m'as déjà tout dit?
Non, il y en a 2-3. Papin qui a des Cristiano dans chaque jambe, non, j'ai jamais dit ça.
Ouais, Maxime.
Que Van Basten a un Zlatan dans chaque cuisse, ça oui, largement, par exemple.
Je pouvais pas parler de tout, Maxime. Je pouvais pas parler.
Ah, voilà, ouais.
De quoi on va parler justement aujourd'hui, Maxime?
Je sais pas, mais c'était très bien en tout cas. Alors, si, juste un petit rectificatif.
Vas-y.
20, 10 ou 5 ans de moins. Non, un peu plus quand même, t'es gentil.
C'est pas évident. Hein. Alors, pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est pas évident. Parce qu'on vous rappelle, si vous voulez, on va faire notre petite laïus habituelle. Vous avez toute l'émission en audio, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mettez-nous des étoiles, retrouvez-nous sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Acast, enfin sur toutes les plateformes de podcast. Si vous voulez voir nos bobines et celles de Maxime qui vieillissent semaine après semaine, le poids des années est de plus en plus difficile à masquer pour Maxime, retrouvez-nous sur notre Facebook et les meilleurs extraits de l'émission sont à retrouver sur eurosport.fr.
Cela dit, Andreas Bremer, on en parlait hier, c'est quand même le seul mec qui a mis un coup franc du gauche en demi-finale de Coupe du Monde et un pénalty du droit en finale.
Ouais, il ne faut pas le lancer.
Bah voilà, non, mais à tous ceux qui se disent, oui, ceci, cela, voilà, le type en finale de Coupe du Monde, il tire son pénalty du pied droit. Et si vous n'avez jamais vu son but, je pense qu'il n'y a aucun pénalty dans l'histoire du foot et à ce niveau-là qui est aussi bien tiré dans le petit filet. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Si vous voulez, on en reparlera sur les réseaux sociaux, vous voulez. Voilà. Et Martin, je te propose, tes intros sont de plus en plus construites. Va falloir faire un recueil un jour quand même.
Ouais, on va faire un petit best-of. On va faire une émission où il n'y aura que ça pour les fêtes de Noël à la fin d'année. Maxime, de quoi on parle aujourd'hui?
Eh ben on va parler football évidemment. Tu m'as pris de court, je me rappelle plus des sujets, non je rigole. On va parler évidemment de Luis Suarez qui a sorti l'Atlético Madrid d'un fort mauvais pas hier. Et quand on voit la saison de l'Atlético, quand on voit celle du Barça. Eh ben, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que lâcher Suarez pour le Barça, n'est-ce pas une erreur capitale? Est-ce que finalement, le Barça n'aurait pas mieux fait de garder Luis Suarez cette année puisqu'il est étincelant?
Et on avait prévu de parler en deuxième sujet de Dimitri Payet. On va parler de Dimitri Payet. On va se poser la question, est-ce que ce serait pas lui le vrai boulet de l'OM cette saison, plus que Villas-Boas? Et puis, André Villas-Boas, on a parlé en conférence de presse. Il nous a déroulé le tapis rouge en disant que les relations entre Dimitri Payet et Florent Thauvin n'étaient pas au beau fixe. En tout cas, qu'ils ne partiraient pas en vacances ensemble. Et on se posera aussi la question, s'il ne fallait en garder qu'un, l'OM, est-ce que ce serait Payet ou est-ce que ce serait Thauvin? Et Maxime, on terminera avec...
Le teasing. Et oui, on va parler de Zinedine Zidane et on va prendre un peu le contre-pied du sujet qu'on voit fleurir tout le temps et dont on a parlé maintes et maintes fois ici, c'est-à-dire Zidane est-il menacé? Zidane est-il en danger? Et on va se poser la question suivante et surtout essayer d'y répondre. Est-ce que finalement Zidane ne serait pas invirable finalement? C'est la question qu'on se pose parce que tous les 2-3 mois, on entend Zidane ceci, Zidane cela, Zidane est au bord du précipice, mais Zidane s'en sort toujours et on sent que personne n'osera un jour appuyer sur le bouton pour l'éjecter du Real Madrid, donc c'est la question qu'on va se poser. Et d'ailleurs, on en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Zinedine Zidane, puisque tout à l'heure, on a presque cru qu'il était viré, parce qu'on a vu un tweet du Real Madrid, vous savez, communiqué officiel, Zidane, on s'est dit, aïe, ce serait bizarre, mais non, en fait, le malheureux a attrapé le Covid, donc on lui souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à toutes les victimes de cette pandémie qui nous fait depuis plus d'un an.
Ouais, même je dirais. Alors Maxime, on va commencer avec Luis Suarez parce que jeudi soir, le Barça est passé par un trou de souris en 16e de finale de Coupe du Roi face à une Détroit. Hein. Imaginez une Détroit. Le Barça est allé en prolongation et a livré un match relativement pathétique, comme depuis le début de saison du FC Barcelone. C'est peut-être le pire FC Barcelone du 21e siècle. Dans le même temps, l'Atlético s'imposait en Liga grâce à un doublé de Luis Suarez, prenait 10 points d'avance sur le Barça avec un match en moins en tête de la Liga. Et Luis Suarez qui fait la nique à son ancien club parce que le Barça a laissé partir Luis Suarez, le jugeant trop vieux. Koeman ne l'a pas retenu, l'a même gentiment montré la sortie. Maxime, est-ce que ce n'est pas une erreur historique du FC Barcelone qui, on le voit, sans Suarez ne s'en sort pas alors que l'Atlético, lui, est tout heureux de l'avoir récupéré?
Ouais, et en plus, hier, Suarez marque sur pénalty, alors qu'on a vu que le Barça avait 2-3 problèmes sur les pénaltys hier. Vrai. D'ailleurs, c'est un vieux problème du Barça, les pénaltys. Ce serait intéressant de se pencher là-dessus. Première chose que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'il est toujours dangereux de refaire l'histoire, surtout qu'on est encore dans le présent. C'est-à-dire que, à la question, est-ce que Luis Suarez servirait et serait utile à ce Barça aujourd'hui? Bah, j'ai envie de dire oui, parce qu'en avant-centre, il n'y a pas grand monde. Martin Braithwaite, c'est 2 buts. Griezmann a essayé de jouer avant-centre parfois, c'est 5 buts. En tout cas, il n'y a pas de solution. Maintenant, ce qui est difficile de dire, c'est est-ce que le Barça a mal fait de laisser partir Suarez l'été dernier? Ben moi, j'ai envie de défendre un peu Ronald Koeman et de dire que finalement, ce n'était pas délirant l'année dernière, du moins au moment du mercato, de le faire partir. Pourquoi? Parce que faut pas avoir la mémoire courte, ce Barça-là, c'est le Barça du 8-2 face au Bayern. C'est un Barça en pleine déliquescence après le restart et c'est un Barça qui a perdu un titre, qui lui tendait les bras et qui n'allait plus du tout. On parlait de la toxicité de Messi, on parlait de toutes ces choses-là. Un moment, quand on change les hommes à la tête, il faut prendre des décisions. Koeman a pris la décision de, entre guillemets, dégager Luis Suarez. Luis Suarez, il est très content, il joue à Atlético, un club qui lui ressemble. Ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ça marcherait mieux de le remettre dans ce Barça-là, parce qu'on a plein d'exemples de joueurs qui sont revanchards, qui réussissent ailleurs. Voilà. Après, c'est sûr que si on prend juste la photo du moment, bah oui, évidemment, c'est Suarez qui a raison. Maintenant, je pense que, et j'en parlerai après, encore une fois, après, c'est dire que je pense que Koeman a eu raison de prendre des décisions. Le Barça ne pouvait pas rester ainsi.
Non, mais Maxime, c'est inaudible, tes arguments-là. Excuse-moi.
Bah non,
je vais être franc, on s'aime beaucoup, hein, mais là, je vais être franc. Tu me dis que le Barça s'est pris 8-2 en quart de finale Ligue des Champions, qu'il a laissé finir un titre, c'est vrai, mais là, le Barça, en l'état, n'est même plus en mesure de se battre pour le titre. Pourquoi? Mais parce qu'il a laissé, entre autres, partir Luis Suarez. Maxime, je t'ai laissé parler 35 minutes. Tu peux me laisser parler 2 minutes et demie. Hein. On va faire comme les hommes politiques sur les plateaux télévisés maintenant. Laisser partir Suarez, pourquoi pas? On part sur un nouveau cycle. Mais pour mettre qui? Pour mettre Martin Braithwaite? On est vraiment sérieux là. Braithwaite, quand il arrive au Barcelone, au Barça, c'est le moment où tu comprends que le Barça n'est plus le Barça, qu'il reste que le nom. Donc Braithwaite en pointe du Barça, c'est non. Et pour mettre un Griezmann en pleine crise de confiance, et dont, tu le sais aussi bien que moi, ce n'est pas le poste naturel. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible de marcher comme ça. Quand je vois que Koeman, au moment du départ de Suarez, nous dit dans la presse, dans le cas de Suarez, il était devenu très difficile pour lui d'être titulaire.
Bah, titulaire. Il sortait de sa plus mauvaise saison.
Dans ce Barça-là, tu ne mets pas Suarez titulaire. Tu mets Braithwaite ou tu mets Griezmann. Là, on marche sur la tête. L'an dernier, je veux bien qu'on tire sur Suarez, c'est 22 buts, c'est 13 passes décisives en 38 matchs. Seulement, je me coupe les deux mains si Griezmann ou Braithwaite arrivent à la moitié de ces statistiques-là en 38 matchs.
Là, tu prends des risques quand même. La moitié, tu prends des risques.
Non, mais aujourd'hui, il n'y a aucun joueur du Barça qui est capable d'avoir ces stats-là en pointe du FC Barcelone. Donc, combien pas de me dire, OK, on voulait dégager tout le monde, on voulait faire une révolution. Dans ce cas-là, OK, mais tu vas jusqu'au bout. Tu restes pas dans cet entre-deux complètement casse-gueule. Soit tu fais ta révolution totale. Donc, tu vires Suarez, tu vires Piqué, tu vires Sergio Busquets et tu vires Lionel Messi. Tu donnes le pouvoir à Ricky Puig et tous les petits jeunes qui arrivent. Tu vires tout le monde. Et tu acceptes de faire une saison blanche où tu reconstruis pas à pas, où tu c'est la politique de la terre brûlée un petit peu. Mais pourquoi ne virer que Suarez, n'avoir personne pour le remplacer? Aujourd'hui, tu te retrouves avec un Barça comme l'an dernier, mais moins bon, parce qu'il manque le meilleur attaquant, tout simplement, le meilleur avançant du monde.
Je te relance, t'aurais fait quoi, toi? T'aurais gardé Suarez?
Ah oui, j'aurais gardé Suarez.
Et continuer, c'est ce que c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et penser que ça va aller mieux.
Oui, mais là, c'est pire, la Maxime, mais oui, c'est pire. Oui, soit tu fais une révolution totale. Et OK, tu vires Suarez et tu vires tous les autres dans ce cas-là.
Mais alors c'est peut-être
part sur une nouvelle philosophie. Et c'est pas ce qu'ils ont fait.
Ça, on est d'accord, mais je pense que Coman, ce qu'il a voulu faire, pour faire simple, c'est une inspiration un peu, j'ai envie de dire, guardiolesque. C'est-à-dire que souvenez-vous, quand Guardiola arrive, déjà la situation n'est pas aussi, j'allais dire, noire qu'elle l'est aujourd'hui, parce que le Barça venait de gagner la Ligue des Champions 2 ans avant. Guardiola, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon Messi et mon Suarez de l'époque, en gros, c'est Ronaldinho et Samuel Eto'o. Et qu'est-ce qu'il dit quand il arrive? Il dit moi, j'en veux plus des deux, voilà, tout simplement. C'est quand même très courageux parce qu'aujourd'hui, ça paraît génial, ça paraît simple, mais ça ne l'était pas à l'époque, je peux vous le dire, parce que Messi, tout Messi qu'il n'était pas encore l'immense Messi qu'il est aujourd'hui. Et derrière, il n'y avait pas les mêmes garanties. Il est arrivé, il a demandé à Ronaldinho de partir, il est parti. Il s'est accommodé de Eto'o pendant une année supplémentaire parce qu'il ne partait pas et finalement, il l'a bien fait. Mais à l'arrivée, c'était dire, on fait table rase et c'était dire, de toute manière, ça ne marchera pas mieux en faisant la même chose. C'est pas possible, c'est ce que je dis, ça s'appelle la folie. C'est ça exactement la folie, c'est de penser qu'en faisant toujours les mêmes choses, ça ira mieux une nouvelle fois si ça ne marche pas avant. Ça, c'est pas possible. Donc il l'a fait, ça a fonctionné. Malheureusement, on en revient à autre chose. Koeman, c'est sûrement pas Guardiola, et il a peut-être pas aussi le même vivier derrière, puisqu'il est encore, dans le, j'allais dire, dans le vivier de Guardiola, comme tu l'as dit. Piqué et tout ça, ça devait partir pour moi, il n'y a pas de raison. Les prolonger, c'était à mon avis une erreur. Maintenant qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier une chose aussi, parce que Koeman, on peut lui mettre tout ce qu'on veut sur la tronche. Il arrive dans un club qui est entre deux, c'est-à-dire avec un président qui s'est engueulé avec tout le vestiaire, qui est complètement coupé du vestiaire, avec un joueur, Lionel Messi, qui veut partir, ce qui était une première, et un club qui est endetté à 900 millions. Je veux dire, Koeman, il ne fait que ramasser toutes les conneries qui ont été faites avant lui, parce que c'est un club qui a vécu au-dessus de ses immenses moyens. D'ailleurs, parenthèse, si Bartomeu veut de la Super League pour le Barça, c'est parce que c'est plus facile de ramasser encore de l'argent plutôt que faire des économies ou d'avoir un budget à l'équilibre. La parenthèse est fermée, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce club, ça dépasse Koeman, il est en déliquescence et ça dépasse aussi Suarez. Donc je pense que malheureusement, il paye ça. Et pour aller dans ton sens quand même, je pense que oui, c'était peut-être la table rase qu'il fallait faire pour repartir de zéro, parce que là, Barça est dans un entre-deux.
Dans un entre-deux un peu entre-deux dangereux, un entre-deux qui ne sert à rien, et un entre-deux qui creuse la tombe du Barça, surtout. Moi, je veux bien prendre des décisions, mais pourquoi se séparer du seul mec? C'est le seul qui a ce profil-là avec Braithwaite. Ok, donc on va pas comparer Suarez et Braithwaite, parce que sinon là, moi je quitte l'émission. Je quitte l'émission. C'est le mec qui joue le plus complémentaire de Lionel Messi. À partir du moment où tu gardes Lionel Messi, Luis Suarez, et si faut attendre un an et la fin du contrat de Lionel Messi pour mettre un grand coup de balai, tu attends un an. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur une saison du FC Barcelone qui est abominable. Il faut voir les matchs en Supercoupe d'Espagne, il faut voir le match en Coupe du Roi, il faut voir les matchs de Liga. Alors, il y a 2-3 éclairs de Griezmann, il y a Messi qui les sort d'un mauvais pas une semaine sur deux. Mais quand on regarde, quand on a la vision globale, c'est abominable.
Tu peux pas demander à un nouvel entraîneur d'arriver et de lui dire, et cet entraîneur dit, je vais attendre un an pour tout changer, alors que ça ne marche pas du tout. Mais non, c'est pas possible. Donc lui, il a pris des décisions, qu'elles soient bonnes ou pas, j'en sais rien. Souviens-toi au début, quelle est sa logique? C'est de dire, Griezmann, il lui dit, tu vas jouer dans l'axe, Coco. Alors ça, c'est peut-être une autre erreur, mais finalement, il y a peut-être plein d'erreurs qui s'accumulent. Mais le souci, c'est qu'aussi, encore une fois, il faut revenir à ce qu'est le FC Barcelone de l'été dernier. Le Barça toxique, le Barça Messi. Suarez, c'est aussi une manière de modifier l'influence de Messi. C'est-à-dire que Lionel, c'est pas que tes copains qui jouent. Et je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Luis Suarez est un immense avant-centre, je suis le premier à le dire.
Ça reste un des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui. Hein. Ça reste.
C'était pas une évidence l'été dernier, voilà, tout simplement. Parce qu'il sortait de sa plus mauvaise saison. Non mais d'accord, mais après, que tu as raison derrière qu'ils n'ont pas les armes exactes pour le remplacer. Et c'est vrai que c'est un problème. Mais le Barça ne fait tout simplement que payer. C'est dur, je trouve, de mettre ça sur la tronche de Koeman, alors que le Barça, finalement, là, aujourd'hui, il paye quoi? Mais ils ont ramassé 222 millions d'euros avec le transfert de Neymar. Ils ont 900 millions de dettes. Ça paraît complètement surréaliste.
Mais ça, voilà. C'est un autre problème.
Mais ça, non, c'est pas un autre problème, parce que si tu gères bien, peut-être que tu as un avant-centre. Comme tu l'as dit, un club comme ça ne doit pas se retrouver au dépourvu, c'est-à-dire que le jour où il vend pas son meilleur joueur, le deuxième meilleur joueur, et surtout dans un poste où il y a des trous dans l'effectif, eh ben, il doit avoir un plan B. Et ce plan B, il n'est pas forcément clinquant. On a souvent parlé d'Olivier Giroud, des joueurs comme ça. Bah, c'est peut-être un joueur un peu comme ça. Mais comme tu l'as dit, Martin Braithwaite, oui, non, ce n'est pas possible. On est d'accord. Voilà. Et je pense sincèrement qu'il espérait que Griezmann ferait l'affaire, mais ça s'est mal goupillé. Donc voilà, le Barça, finalement, va faire maintenant.
Si Griezmann ferait l'affaire tout seul en pointe, c'est qu'il n'a pas bien travaillé son sujet non plus. Parce qu'il suffit de voir les matchs de Griezmann quand il est en pointe, ou de voir ses matchs...
Non, mais il espérait que ça fonctionnerait en faux neuf avec Messi, etc. Mais voilà, ça n'a pas marché comme il voulait. Maintenant, ce que je dis encore une fois, moi, je ne sais pas si le Barça, avec Luis Suarez, se porterait forcément mieux. J'en sais rien.
Je ne porterais pas plus mal. Ça, c'est une
certitude. Oui, mais ça ne serait pas beaucoup mieux non plus. Et qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, il n'a pas viré Suarez, c'est pas terrible. Voilà. Parce qu'en fait, la question, elle est là. Est-ce que tu penses que le Barça, aujourd'hui, avec Suarez, est premier du championnat?
Il serait beaucoup mieux. Ah, mais ça, c'est une certitude.
Ah, c'est quoi beaucoup mieux?
Je ne sais pas, mais il n'y aurait sans doute pas 10 points d'écart avec l'équipe qui a Luis Suarez attaquant
peut-être,
et qui est meilleur buteur de Liga.
Peut-être, mais si tu rajoutes 4-5 points d'avance, tu dirais, bah oui, mais ils sont quand même derrière et c'est quand même pas terrible. Et pourquoi ils n'ont pas changé? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà, tout simplement. Encore une fois, je pense que le Barça récolte simplement ce qu'il a semé, surtout sa direction, depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tout faire et qu'ils n'ont plus d'argent. Et c'est le problème, toi qui présente brillamment avec Cyril Morin, mercredi Mercato, est bien placé pour le savoir. D'ailleurs, ça vous fait des infos en moi, puisque le Barça ne peut pas bouger parce qu'il n'a plus d'argent.
Ouais, exactement. Bon, allez, on va passer au deuxième sujet. Et on va parler de Marseille maintenant, avec là aussi une gestion, on va dire, qui pose question, celle de Dimitri Payet. On parle beaucoup du grand attaquant, on parle beaucoup d'André Villas-Boas. La question qu'on va se poser, la première question qu'on va se poser sur Dimitri Payet, c'est: est-ce que c'est pas lui finalement le problème, le principal et le vrai problème de l'OM cette saison? Dimitri Payet qui a été écarté en fin d'année dernière, qui a été mis sur le banc en tout cas par André Villas-Boas pour un retard à l'entraînement. Et ce n'est pas la première fois que Dimitri Payet connaît quelques écarts de comportement dans sa carrière. On va vous résumer assez rapidement, je vais aller assez vite, ces incartades, on va dire, depuis le début de sa carrière. Janvier 2011, il est mis à l'écart du groupe stéphanois parce qu'il veut absolument partir au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. 6 mois plus tard, il sèche l'entraînement pour rejoindre le LOSC. En mai 2014, c'est Didier Deschamps qui lui dit « Bah non, tu ne feras pas la Coupe du Monde au Brésil », parce qu'il lui reproche aussi son comportement dans le groupe. En décembre 2014, il est mis à l'écart par Marcelo Bielsa, c'est en toute fin d'année, qui lui reproche lui son investissement lors d'un entraînement. En janvier 2017, il est mis à l'écart plusieurs semaines par West Ham, parce que voilà, il veut forcer son transfert à Marseille. En mai 2019, il dit lui-même que ses rapports se sont détériorés avec Rudy Garcia. Et enfin, là, bah, en décembre 2020, il est donc mis sur le banc par André Villas-Boas, Galtier, Deschamps, Bielsa, Bilic, Villas-Boas. Nombreux sont les entraîneurs qui ont eu un problème à un moment donné, et Garcia, j'oublie, hein, un problème à un moment donné avec Dimitri Payet. Maxime, à force, ça devient un vrai problème. Et moi, ce que j'ai envie de dire sur Dimitri Payet, c'est que c'est un joueur de très haut niveau, c'est pas moi qu'on va l'apprendre, c'est un joueur que vraiment j'adore quand il est au top du top. C'est un des meilleurs joueurs du monde, hein, je le répète souvent, mais il était dans le top 20 du Ballon d'Or 2016 notamment. C'est un joueur de très très haut niveau, mais qui n'est pas fait pour le très haut niveau. Parce que le très haut niveau, ça réclame de la constance, ça réclame de la rigueur, ça réclame de la discipline, ça réclame aussi une hygiène de vie irréprochable. Et Dimitri Payet, il sait pas mettre d'eau dans son vin, tout simplement.
Dimitri Payet, pour moi, il est autant la solution que le problème de l'OM. C'est-à-dire, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et quand il y a des très hauts, c'est vraiment très, 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 très haut. Parce que je pense que dans l'effectif marseillais, peut-être avec Mandanda en défense, dans les buts, Il n'y a pas grand-chose qui est au-dessus de lui quand il est au top. Voilà, c'est un joueur qui peut être de classe mondiale. Voilà. Le problème, c'est quand il y a des très bas, bah, c'est des très, très, très bas. Et Payet, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur orgueilleux. Et c'est finalement presque les plus durs à gérer parce qu'il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient de ce qu'il peut apporter. Donc, ça peut vite devenir nocif. On le voit dans ses réactions, des fois. On sent qu'il n'est pas vraiment, j'allais dire, dans le mood. C'est-à-dire, quand ça ne lui plaît pas, il le fait savoir. Il le fait comprendre. Et donc, du coup, en fait, là, j'ai l'impression que l'OM est un peu dans un cercle vicieux. Payet n'est pas bon. Donc, Payet le fait savoir. Donc, Payet n'a pas forcément envie de faire mieux. Et l'OM ne va pas bien. Donc, l'OM ne peut pas aller mieux parce que Payet n'est pas bon. Donc, vous voyez, tout s'entrechoque. Et puis, ça crée des tensions avec André Villas-Boas et peut-être même avec ses partenaires. On va y revenir. En revanche, qui est plus embêtant pour l'OM, pour moi, aujourd'hui, c'est que, souvenez-vous, l'été dernier, il a prolongé son contrat jusqu'en 2024. En lissant son salaire, c'est-à-dire que pour faire simple, ce qu'il devait toucher en deux ans approximativement, il touchera jusqu'en 2024 pour aider le club. C'est plutôt bien et ça prouve aussi qu'il aime ce club et je pense que ça, c'est vraiment sincère. Et aussi de préparer une reconversion. Moi, ce que j'espère, je pense que ce n'est pas encore le cas, mais c'est que l'OM ne va pas à terme traîner ça comme un boulet en se disant, bah voilà, il est là, on le garde parce qu'il a signé, il a ce pouvoir à rester là et finalement traîner Payet dans son coin parce que je fais le lien avec ce que j'ai dit au début, c'est un joueur intelligent, orgueilleux et lui, je pense que s'il n'est pas toujours prêt à faire les efforts comme tu l'as dit, il ne sera pas prêt non plus à accepter ça. Donc, c'est une situation qui peut vite devenir nocive pour l'OM.
Le problème aujourd'hui de l'OM, l'OM se retrouve piégé, comme tu as très bien dit, mais est-ce qu'on peut mettre le destin d'une grande équipe, ce que veut être l'OM, c'est-à-dire globalement une équipe Ligue des Champions chaque année, qui peut se battre pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, la qualif, est-ce que tu peux mettre le destin d'une grande équipe comme ça entre les mains d'un joueur comme ça? En termes de talent, oui. En termes d'état d'esprit, en termes de performance, de régularité surtout, c'est impossible. Payet, est-ce qu'aussi sa mauvaise saison, parce que là, il fait clairement une mauvaise saison, une saison même assez exécrable, c'est pas à mettre en parallèle aussi avec le fait qu'il est prolongé, qu'il soit dans un certain confort, voilà, qu'il est peut-être acquis ce qu'il voulait. On sait que c'est un joueur cyclique, mais c'est un joueur aussi qui est dans la réaction. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, qui a de l'orgueil. L'année dernière, ça s'est très bien passé. C'était la première saison avec Villas-Boas. Il a montré à tout le monde qui était le patron de cette OM-là, Thauvin n'était pas là, donc il l'a montré. Et là, peut-être qu'il est dans une sorte de confort total qui explique pourquoi aujourd'hui, il n'y arrive pas tout simplement et qu'il est très 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 loin de son meilleur niveau. Le problème, c'est que l'OM est pieds et poings liés avec Payet, plus qu'avec n'importe quel autre joueur, parce que c'est lui le vrai baromètre de cette équipe-là. C'est pas Thauvin, c'est pas un autre, c'est uniquement Payet. Et là, on voit bien que ça se passe mal, aussi et surtout parce que ça se passe mal pour Dimitri Payet.
Tu as parlé de ses désaccords avec ses entraîneurs successifs, il y a souvent eu des petits problèmes. On sent qu'avec Villas-Boas, c'est en train un petit peu de se tendre aussi, même si je crois que c'était dans une interview à nos confrères de l'équipe, il avait expliqué qu'il était sur le banc, il dit c'est normal, en gros j'ai été nul, je ne mérite pas forcément de jouer, voilà. Mais au bout d'un moment, je pense que lui va moins bien le vivre, et on le voit aussi parce que ces dernières heures, il y a eu la résurgence de ces, on va dire, désaccords amicaux avec Florian Thauvin. On sait que ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde les saisons précédentes avant la blessure de Thauvin, c'est un peu deux coqs dans la même basse-cour. Et bien, a priori, c'est reparti, j'allais dire, comme en 14, parce que André Villas-Boas en a parlé en conférence de presse, et je vais lire ce qu'il a dit. On a clarifié la situation après Nîmes, ils ne vont pas passer des vacances ensemble, en gros, mais le plus important.
Déjà, c'est fou de dire ça.
Et ça, c'est alors, ouais.
Mais il y a l'entraîneur principal d'une équipe qui dit qu'il y a deux joueurs qui ne peuvent pas se blairer, en gros.
Non, mais c'est marrant, ça, c'est très allemand, je trouve. On dirait la sélection allemande, on reconnaît ces choses-là.
C'est très bien, Villas-Boas ne manie pas la langue de bois. En revanche, je ne suis pas sûr qu'il fragilise pas son collectif.
Ouais, et ça fait le lien un peu avec ce qu'on disait dans le sujet de la semaine dernière. On parlait de sa com à Villas-Boas, où on a l'impression qu'il est un peu. Alors, je ne sais pas s'il essaye de se dédouaner encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est trop dans son genre, mais qu'il est un peu en roue libre, il dit ce qu'il veut. Et c'est assez passionnant parce qu'en fait, il est sans filtre, et comme tu l'as dit, reconnaître dans un autre club, j'allais dire normal, mais un club plus classique que l'OM, si on sait que ce n'est pas un club comme les autres, peut-être que l'entraîneur aurait dit ce sont des rumeurs de presse, etc. Ou parlez-en aux intéressés, parce que ce sont, comme les joueurs ne viennent pas en conf de presse, où il n'y a plus de zone mixte, il n'y a pas de problème, ils n'auraient pas pu leur en parler. Mais là, lui, il a carrément mis ça sur le tapis, et ça fragilise un peu plus, je pense, Payet, ça fragilise Thauvin. Et ça donne quand même une drôle d'ambiance dans le groupe, parce que évidemment, vous avez forcément dans le groupe des affinités. Il va sûrement y avoir des pro-paillettes, des proto-vins, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses.
Mais alors, la question qu'on se pose, Maxime, aujourd'hui, si Thauvin et Payet, il y a de l'eau dans le gaz, c'est que Thauvin arrive en fin de contrat. S'il ne fallait en garder qu'un, allez, on fait fi des situations contractuelles, parce qu'aujourd'hui, s'il fallait en garder qu'un, bah, ce serait plus Payet qui vient de prolonger que Thauvin, dont le contrat se termine dans 6 mois. Faisons fi des situations contractuelles des deux hommes. Tu es président du club, tu ne dois en garder qu'un. Lequel tu gardes, Maxime ?
À l'instant T, alors ça va faire bizarre parce que vu leur performance, on pourrait dire bah, aucun des deux. Mais moi, je garderais Florian Thauvin, pour une raison simple. Il est plus jeune, il a de l'avenir et j'ai envie de croire qu'il peut peut-être passer le cap qu'on attend. Alors évidemment, je pense que son plafond au top est plus bas que Payet, mais ses plus bas sont plus hauts que Payet. Donc c'est un joueur un peu plus, moins cyclotimique. Et tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut donner les clés d'un club comme l'OM à un joueur comme Payet avec tout ce que ça comporte ? Aujourd'hui, je ne pense pas. Il y a la différence d'âge aussi, 28 ans bientôt pour Thauvin, 34 pour Payet. À un moment, il faut être sérieux. Voilà. Tu ne donnes plus tes clés à un joueur de 34 ans, hormis s'il s'appelle Messi, s'il s'appelle Ronaldo, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que avec Thauvin, tu n'iras jamais très très haut. Avec un grand Thauvin, tu peux avoir un mauvais OM. C'est déjà arrivé. Avec un grand Payet, tu as forcément un grand OM. Tu regardes la saison dernière. Tu regardes la saison 2017-2018 et le parcours en Ligue Europa, bah c'est lui qui les porte. Thauvin est plus régulier, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il n'amènera jamais l'OM très haut, il n'amènera jamais en Ligue des Champions, c'est pas possible. Tu l'as dit, le plafond de Thauvin, il est très très bas par rapport à celui de Payet. Payet, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Pardon ?
J'ai pas dit très très bas, j'ai dit il est plus bas que celui de Payet.
Il est plus bas, mais alors si on le compare à celui de Payet, pour moi, il est très bas. Parce que Payet, c'est le meilleur joueur, parce que c'est lui qui te fait jouer l'équipe aussi. Parce que lui, il a un rôle de chef d'orchestre que n'a pas Thauvin, qui se concentre plus, lui, sur l'efficacité, sur etc. Payet, ça va être le meneur, le chef d'orchestre. Et pour moi, c'est deux joueurs incomparables. Et s'il ne fallait en garder qu'un, si on veut faire de l'OM un grand club, au-delà des situations contractuelles, je garderai Payet. Parce que Thauvin, on lui a donné des responsabilités à l'OM. On lui a donné les clés du camion. On a vu ce que ça donnait. Oui, il fera des stats, il fera des buts. On n'aura finalement pas grand-chose à lui reprocher. Mais ce n'est pas avec lui que l'OM grandira. L'OM sera un bon club de Ligue 1. Avec Payet, tu fais de l'OM un club Ligue des Champions.
Alors, si j'étais
avec un grand Payet. Hein, avec un grand Payet.
Si j'étais Sidney Pollack ou Francis Ford Coppola, je te dis, recommence ta scène, elle est très bonne, mais il faut que tu la mettes à l'imparfait, voilà. C'est le temps qui ne va pas, voilà. Bah oui, mais tu as raison, comme tu dis, la Ligue Europa, c'est Payet, etc. Il est formidable, c'est coup franc, mais ça fait combien de temps qu'il a pu mettre un coup franc ? On cherchait tout à l'heure.
Mais Maxime, je crois que c'est la Ronaldo, il était encore excellent, Payet.
Oui.
Mais c'est lui qui les amène en Ligue des Champions.
Mais c'est comme
Thauvin,
à chaque fois.
Pas, hein. Thauvin, l'an dernier, il joue pas et c'est une super saison de l'OM.
Oui, mais c'est.
Le contraire est impensable.
Oui, mais alors, on va quand même pas aller jusqu'à dire que c'est parce que Thauvin est revenu que Payet n'est pas bon.
Évidemment.
Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est je pense qu'aujourd'hui, à l'âge, je pense qu'on parlait du Barça tout à l'heure, peut-être que la solution, c'est le coup de balai aussi pour l'OM. Voilà. Après, il faut voir ce que tu as derrière, est-ce que tu peux investir.
C'est le problème, c'est ça.
C'est très compliqué. Mais en tout cas, moi, je sais que je m'accrocherai aujourd'hui plus à Thauvin parce que, encore une fois, si tu acceptes que Thauvin soit un joueur, soit pas ton leader, même si lui, il voudrait avoir ce leadership, je pense qu'en en star d'appoint ou en joueur en. Je ne vais pas dire second couteau, c'est pas du tout ça, mais star d'appoint, c'est parfait. Voilà. En lieutenant, il est parfait, il fait les stats, il a le coup de patte, etc. Voilà. Payet, je pense aujourd'hui, avec tout ce qu'il incarne et ce qu'il est, c'est plus compliqué. Et ce qui est un peu triste dans cette situation-là, je vais être très sentimental, c'est que les deux ont un vrai amour de l'OM.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, ils pourraient
se rejoindre là-dessus, ça c'est sûr.
Voilà. C'est que Payet est revenu parce qu'il y avait aussi sa famille qui se plaisait moins à Londres, etc. Et que lui, il aimait l'OM, il aimait Marseille. Et que Thauvin, lui, je pense qu'il aime vraiment profondément ce club. Et qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'entendre. Est-ce que c'est réparable ? Moi, j'ai un doute parce que pendant un moment, on en parlait au début de leur désaccord. Ça avait donné l'impression que ça s'était un peu aplani. Mais finalement, tu as quand même, comme tu l'as dit, il y a une saison de Payet sans Thauvin. Et c'est peut-être aussi ça qui aplanit un peu les choses mécaniquement. Et aujourd'hui, ça repart pas très bien. Voilà, c'est quand même embêtant. On verra la suite, mais l'OM peut s'attendre quand même à quelques turbulences dans les semaines qui viennent parce que le calendrier de l'OM, en gros, c'est Monaco, c'est le PSG, il y a Lyon qui est pas très loin. Ça va être quand même Rennes, il va falloir que l'OM s'accroche, et il y a Rennes aussi, donc il va falloir que l'OM soit très fort pour se relever de ses dernières prestations.
Et il y a un autre club pour lequel ça commence à être très très chaud, c'est le Real Madrid, éliminé en Coupe du Roi à la surprise générale face à une Détroit. Et comme à chaque fois dans ce cas de figure, bah, l'entraîneur du Real Madrid est sous le feu des critiques. L'entraîneur du Real Madrid est en danger, sauf que l'entraîneur du Real Madrid, c'est Zinedine Zidane. Et que Zinedine Zidane, il en a essuyé des tempêtes, plus que de raisons. On vous a fait un petit résumé de tous ces instants qui ont failli lui coûter sa tête. Donc, il y a eu en février 2018, quand le Real est déjà loin en Liga et éliminé en Coupe du Roi, en octobre 2019, un mauvais départ en Liga et en Ligue des Champions. En février 2020, ils sont battus en huitième de finale aller de Ligue des Champions l'an dernier, souvenez-vous, par Manchester City, et ça sent pas bon parce qu'il y a aussi une défaite en Liga la semaine d'avant. En octobre, la dernière, où il y a eu un mauvais départ en Liga et en Ligue des Champions, souvenez-vous, Shakhtar, etc. Et maintenant, en ce mois de janvier, éliminé par une Détroit en Coupe du Roi, et il y a un point commun à tous ces moments-là, c'est que Zidane finalement reste en place, et que s'il a quitté le Real Madrid à un moment donné, c'est lui qui l'a décidé. Alors la question, elle est simple, Maxime, est-ce que Zinedine Zidane est invirable.
En tout cas, c'est très difficile, apparemment, tu l'as rappelé. Voilà, Zinedine Zidane, à qui on souhaite encore une fois un prompt rétablissement, puisqu'on a appris qu'il avait attrapé le Covid. Voilà, c'est pas très drôle. Il y a eu cette défaite en Coupe d'Espagne face à une Détroit. Honnêtement, moi, j'espère que le jour où Zidane se fera virer du Real, déjà, il ne se fera pas virer pour une défaite en Coupe du Roi parce que ça ne collerait pas avec le statut du bonhomme qui, je le rappelle, a gagné 3 Ligues des Champions de suite et qui est champion d'Espagne en titre. Alors oui, c'est plus compliqué, mais comme d'habitude, à chaque fois que ça tangue, on s'attend au rebond. À chaque fois, on dit « Ah, Zidane, là, c'est pas bon, là ». Mais il ne perd jamais son vestiaire parce que Zidane a ce petit quelque chose en plus qui fait, j'y reviendrai, que peut-être pour ça qu'il est difficilement virable et surtout d'un club comme le Real auquel j'ai envie de dire il appartient finalement. En plus, ce qui est dur, je trouve, c'est que on en a déjà parlé ici, Zidane, il sort à mes yeux de sa meilleure saison d'entraîneur, c'est l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a gagné 3 Ligues des Champions, ça fait bizarre de dire ça. C'est plus prestigieux, évidemment, mais je trouve que c'est la saison dernière qui définit mieux pour moi ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est une forme de pragmatique, d'entraîneur pragmatique qui, on l'a répété aussi suffisamment ici, c'est quoi son site de jeu, j'en sais rien, je sais toujours pas. Simplement, je pense qu'il sait tirer le meilleur de ses joueurs et il le fait globalement bien. Ça marche moins bien cette année, c'est vrai, mais il n'est pas le seul qui galère dans les grands clubs et je trouve que ce serait un peu mesquin de le virer maintenant, même si on entend ici et là, ils sont allés voir Gallardo, le Real a sondé machin. J'ai l'impression qu'ils ont sondé 25 entraîneurs depuis 6 mois. Et que finalement ça ne bouge pas. Moi, Martin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que si Zidane, il y a quelque chose qui est incommensurable, et si Zidane est encore là aussi, c'est à cause de ce qu'on appelle l'aura.
Bien sûr, je pense qu'aussi Florentino Pérez ne veut pas être le premier président qui vire Zidane, puisque la carrière de Zidane à la démarré au Real, on l'a dit, il est parti de lui-même. Et être le président qui vire Zidane, c'est aussi s'exposer derrière si ça se passe pas bien. Tout le monde se rappellera que finalement ça se passait pas si mal avec Zidane. Et puis c'est Zidane. Zidane, c'est pas un entraîneur comme un autre. Zidane, déjà à la base, c'est pas un entraîneur. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a une aura de joueur, une aura d'entraîneur maintenant aussi parce que c'est un entraîneur qui gagne. Une aura d'homme aussi, d'icône absolue. Dans le monde, mais au Real en particulier, personne n'incarne aujourd'hui. Au sein du Real Madrid, personne n'incarne mieux le Real que lui. Aucun joueur, aucun dirigeant. C'est-à-dire que c'est lui. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très dur à virer. Pourtant, on a vu qu'il y avait des occasions de le virer. On les a rappelées tout à l'heure. Il y a deux pierres dans son jardin. Il y a ses résultats. Il y a aussi le jeu du Real. Depuis le début de saison, c'est quand même assez catastrophique. Ils sont loin déjà en Liga de l'Atlético Madrid. En tout cas, l'écart se creuse. Mais il y a aussi la direction qu'il impose lui-même au Real. Prends l'exemple de Degaard, de Militao, de tous ces jeunes que la direction lui a imposé parce que la direction a voulu prendre un chemin, c'est-à-dire recruter des jeunes joueurs, les faire grandir, régénérer le Real. Zidane, il ne veut pas. Zidane, c'est clair, on le voit dans ses compositions d'équipe. Quand les tauliers, quand les soldats sont là, quand les Kroos, les Modric, les Ramos, les Benzema, quand ces mecs-là sont là, c'est eux qui jouent, point barre. Zidane, il ne veut pas en entendre parler. Et cet écart de vision entre la direction et l'entraîneur, ça plus les résultats, plus le jeu moyen, ça aurait coûté la tête de beaucoup d'entraîneurs. Et c'est là où on voit qu'il a un totem, qu'il est presque intouchable. Je vais prendre juste un exemple. Del Bosque, c'est peut-être le plus grand entraîneur du Real contemporain, avec Zidane. Voilà. Et le Real, ils ont jeté des kilotonnes comme ça d'entraîneurs qui avaient des bons résultats. Del Bosque, il se fait virer en 2000, enfin, il se fait pas virer, son contrat n'est pas prolongé en 2003, alors qu'il est champion d'Espagne et alors qu'il a remporté la Ligue des Champions un an avant. C'est dire l'aura de, en tout cas son accomplissement au sein du Real. C'est pas grave, il s'est fait virer comme un malpropre parce que Florentino Pérez, il voulait du galactique et que Del Bosque, avec sa petite moustache et son air un peu de papy, bah voilà, il n'allait pas dans le décor. Zidane, lui, il réunit tout. C'est-à-dire que il gagne, c'est Zidane. Bah, c'est Zidane, voilà. Et rien que pour ça, je ne sais pas s'il est invirable, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus dur de le virer de lui qu'un autre.
Et c'est vrai qu'en plus, les carrières, tu as l'impression que la carrière de président de Florentino Pérez et de Zidane, entraîneur et même joueur, sont liées. Voilà, il y a exactement quelque chose qui est fort entre les deux. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui Florentino Pérez virer Zidane. Surtout là, on n'est pas non plus dans une déliquescence absolue, il ne faut pas exagérer, même si c'est au vrai. Real, tout est plus dur, tout est plus compliqué. Voilà. Et comme tu l'as dit, ce qui fait que Zidane est très fort, encore une fois, ce n'est pas un maître, ce n'est pas Guardiola, ce n'est pas un dogmatique, etc. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui dégage de Zidane. Moi, pour l'anecdote, c'est une des rares personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, ne serait-ce qu'à distance, qui fait quelque chose. Alors, c'est impossible de l'expliquer. Il rentre dans la salle, conf de presse ou ailleurs, ou à Clairefontaine à l'époque, et ben, il se passe quelque chose, voilà.
Et ça te fait ça avec moi aussi.
Non ? Exactement, voilà. C'est les deux personnes. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la même salle là. Exactement. Parce que sinon, je peux pas préparer l'émission, je peux rien faire et je perds tous mes moyens. Donc, tu vois, je bafouille, je sais plus quoi dire. Mais il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est drôle parce que Zidane, on dit, ouais, c'est un timide, c'est un discret, c'est un ceci. Ouais, mais il y a un magnétisme que l'on ne peut pas définir. Et je pense que ça, à une certaine manière, ça marche aussi. C'est aussi pour ça que le Real n'a jamais lâché Zidane. Quand il a terminé sa carrière de joueur, il n'allait pas devenir entraîneur. Il ne voulait pas devenir entraîneur. Ils en ont fait un ambassadeur parce qu'il a une image, parce qu'il y a quelque chose qui dégage. Et bien ça, on est toujours un peu par le petit bout de la lorgnette. On continue ça dans sa carrière d'entraîneur.
Et en plus, il y a le palmarès qui construit.
Oui, non, mais c'est ça aussi. À un moment, il ne faut pas oublier que le type a gagné 3 Ligues des Champions de suite. C'est du jamais voilà. Vu. Voilà. C'est incroyable. Je veux dire, depuis le Milan AC, il n'y a personne qui gagnait 2 Ligues des Champions de suite. Le mec, il arrive, il en gagne 3 comme ça, alors qu'on disait, souvenez-vous de ce qu'on disait, il n'est pas entraîneur, qu'est-ce que ça va donner? Et moi, le premier à avoir des doutes même sur lui, le type a 3 Ligues des Champions. Donc voilà, il est champion d'Espagne l'année dernière. Je pense que ça le rend difficilement limogeable maintenant. Et comme tu l'as dit, moi, je pense que Zidane arrêtera, comme la première fois, le jour où il l'aura décidé,
je suis d'accord avec toi. Et c'est Marca qui dit que de toute façon ils resteront avec Zidane jusqu'à la fin de saison. Bon. Oui. Parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas, je sens que si la saison se passe mal, donc qu'est-ce que c'est une saison qui se passe mal? Ils se font sortir en huitième ou en quart de la Ligue des Champions, ils ne sont pas champions d'Espagne. Et ben j'ai le même pressentiment que toi, c'est qu'à un moment Zidane dit, bah voilà, on arrive au bout du cycle avec mes guerriers, tous ces mecs-là, vous voulez passer à autre chose? Ok, ciao, bye bye. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà, il garde la face. Florentino Pérez n'a pas à virer Zidane. Et le Real peut repartir sur autre chose avec un autre entraîneur. Mais je pense que ça se fera comme la première fois aussi. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne, toute cette aventure-là.
Non, et puis ce serait plus classe si ça devait arriver, que ça se passe comme ça. Voilà. Parce que le virer, notamment, je reviens à ce qu'on disait en début d'émission tout à l'heure. Le petit tweet tout à l'heure du Real, on voit communiqué officiel, on se dit Zidane. Bon, c'était le Covid, évidemment. Ouais. On se dit. Bah quand même, après une finale Coupe du Roi. Et encore une fois, et je le dis, et si jamais, à mon avis, Zidane devait se faire limoger ou quitter le Real Madrid, même en courte saison, si ça arrivait, je pense que ça viendrait au moins autant de lui que de Florentino Pérez et non pas du reste. Et surtout qu'il n'y a pas de signe avant-coureur de son vestiaire. Et c'est ça qui est formidable avec lui, c'est que le vestiaire ne le lâche jamais. Et ça, c'est formidable. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur l'aura, sur sa manière d'être. Je pense que c'est une qualité exceptionnel à ce niveau-là. Donc voilà, moi, si je devais donner une deadline, ce ne serait pas avant la fin de la saison parce que je ne vois vraiment pas le Real le dégager maintenant.
Merci Maxime de nous avoir éclairé de ton génie, mais c'est presque pas assez.
C'est presque pas assez.
Ouais. C'est presque pas assez.
Il manque deux, trois trucs.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Sébastien Petit derrière la caméra. Merci à Quentin Guichard au visuel. Merci à vous de nous écouter. Continuez.
Et merci à toi, Martin, dans ton petit KGB.
Ouais, c'est.
Je change rien, j'espère que tu n'es pas trop à l'étroit.
Je fais de la peine, je fais un petit peu de peine dans mon petit KGB. Continuez à nous écouter, continuez à nous regarder, continuez à nous aimer, surtout. Parce qu'on a besoin d'amour. Je ne sais plus qui chantait ça. Besoin d'amour. Sébastien, il doit le savoir derrière la caméra qui chante besoin d'amour.
Je suis sûr que oui. Non, il dit. France Gall, il dit. Ouais, non, je crois que c'est pas ça.
Non, c'est pas France Gall.
Non, c'est pas une, c'est pas Priscilla ou un truc comme ça.
C'est de la Starac, je pense. Enfin bref, on vous donnera la réponse la semaine prochaine. Donc soyez présents au rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro du FC Stream Team.
Laurie me dit Seb.
Ah oui, besoin d'amour, c'est Laurie.
Ah oui, c'est Laurie. 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 Tu connais son nom de famille, Laurie, non?
C'est quoi?
L'auriculaire.
On peut pas terminer là-dessus. Déjà, pour pas revenir la semaine prochaine.
Laurie complet, sinon. Voilà. Bon, bref, voilà. T'imagines les gens, tu sais, on voit les taux de complétion sur les podcasts, voir qui va au bout. Et ben là, on saura si les gens sont allés au bout parce qu'ils ne reviendront pas la semaine prochaine. L'intro, on a fait l'outro aussi.
Exactement. Rendez-vous la semaine prochaine. On verra. On compte sur vous malgré tout. On vous dit restez fidèles à Eurosport ce week-end parce qu'il y a plein de choses, que ce soit sur le site ou à l'antenne. Et bon, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.